Merci pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Vous êtes en compagnie de Rouquette Abdraman pour le journal de 17h. Les titres dans un instant. La journée mondiale de la propriété intellectuelle est célébrée ce 26 avril sous le thème « La propriété intellectuelle et les jeunes, innover pour un avenir meilleur ». La directrice du Bureau nigérien des droits d'auteur est à suivre dans un instant. L'introduction du vaccin antipaludique au Niger pourrait réduire considérablement les cas qui sont environ de 4,5 millions selon les chiffres de 2021 du ministère de la Santé, a déclaré la directrice nationale du programme PALU à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie. Dans la rubrique de chaque mardi, Femmes et bien-être, nous irons à la découverte en fin d'édition de Maimouna Issaka, femme en situation de handicap et animatrice dans un centre d'alphabétisation. Mardi 26 avril 2022, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La propriété intellectuelle et les jeunes, innover pour un avenir meilleur, c'est le thème de la journée mondiale de la propriété intellectuelle célébrée ce 26 avril. Une occasion de découvrir ce que la propriété intellectuelle et son impact dans la vie quotidienne. Selon la directrice générale du Bureau nigérien des droits d'auteur, c'est un domaine transversal qui touche toutes les activités de l'homme. Madame Zarami Faji Kachalla, directrice générale du BNDA, est au micro de Moussa Sane.
Le droit de propriété intellectuelle regroupe deux branches. La première, c'est le droit de propriété industrielle et le droit de propriété littéraire artistique, qui est le droit d'auteur. Au niveau de la propriété industrielle, c'est lié aux brevets, marques, décès et modèles. Donc du côté propriété littéraire artistique, qu'on appelle communément droit d'auteur, c'est lié à la création intellectuelle et auteur du droit de propriété littéraire artistique, une personne morale ou bien une personne physique ayant créé l'œuvre, donc qui n'a jamais existé, ou bien on parle du droit voisin de fois, qui a complété une œuvre déjà existante et qui a ajusté pour que l'œuvre soit utilisable mais d'une autre manière. Et là, on bénéficie du droit d'auteur quand l'œuvre est exploitée. Travailler les droits, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas sentimental, c'est vraiment purement technique.
Le monde a célébré hier la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Au Niger, environ 4,5 millions de cas positifs, dont plus de 4 000 décès, ont été rapportés en 2021 selon le ministère de la Santé. Mais un premier vaccin contre la maladie a été annoncé par l'Organisation mondiale de la Santé en octobre 2021. Il est déjà testé en 2019 sur plus de 800 000 enfants des moins de 5 ans dans 3 pays africains. Selon Dr Djerma Kouhadiza Jakou, coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme au Niger, l'introduction de ce vaccin antipaludique au Niger pourrait réduire considérablement les cas dans le pays. Elle est au micro de Rafika Taher.
Ce vaccin est un grand pas en avant pour la lutte contre le paludisme. Nous pensons qu'il va réduire le nombre de cas et le nombre de décès dus au paludisme. Dans les pays où il a été expérimenté, les résultats montrent qu'il y a quand même une réduction assez significative de 30% des décès dus au paludisme et qu'il prévient donc 3 cas de paludisme sur 10 chez les enfants de moins de 5 ans et 3 cas sur 10 de paludisme mortel. Il faut savoir également qu'il permet de réduire de plus de 29% les formes sévères et 62% le nombre d'anémies. Lorsque ce vaccin est combiné donc avec toutes les autres stratégies de prévention que nous avons, c'est une stratégie qui permet de réduire d'au moins 75% le nombre de cas dus au paludisme dans les pays africains. Nous allons bientôt donc en collaboration avec l'OMS, avec la direction des immunisations, pour réfléchir dans quel cadre nous allons proposer l'introduction de ce vaccin au Niger.
Dans la lutte contre le paludisme chez les femmes enceintes et les enfants, à Balayara, des moustiquaires imprégnés leur sont distribués lors des consultations, explique Dr Adamou Abdourachid, médecin-chef du district sanitaire. Il recommande aux femmes l'usage des moustiquaires afin de les épargner de la maladie. Il est au micro de Saidi Abdou Winetan.
Les femmes enceintes reçoivent leurs moustiquaires dès leur première consultation ou si elles viennent vacciner leurs enfants. Le paludisme peut provoquer une fausse couche, donc c'est en prévention que nous leur donnons ces moustiquaires et d'autres produits pour éviter le palud à chaque consultation. Si la femme sent les signes du paludisme dans son organisme, une fois au centre de santé, si c'est effectivement le palud qu'elle a, elle paie seulement 200 francs CFA pour recevoir un traitement complet. Par la grâce de Dieu, nous souhaitons qu'elle dorme sous moustiquaire. C'est d'ailleurs pour ça que le mois prochain, nous nous préparons à la distribution en masse dans tout le pays de moustiquaires imprégnés porte à porte. Chaque chambre doit avoir le sien, et ce n'est pas pour les vendre. C'est pour que les habitants de cette chambre couchent dessous, protéger les femmes et enfants contre les moustiques.
Une campagne de plaidoyer pour la participation des femmes à la prise de décision et l'accès équitable aux ressources a commencé samedi dans 10 villages de la commune rurale de Tagazar, département de Balayara. La délégation composée des leaders religieux et coutumiers des autorités municipales et partenaires de la commune passera de village en village pour sensibiliser les populations. Mamoudou Hamidou, agent de terrain d'une ONG, est au micro de Hassan Moumouni.
La présente campagne que nous sommes en train d'exécuter rentre dans le cadre d'un projet qui a des volets ici dans la commune de Tagazar. Le premier volet s'occupe de la prise en charge des enfants pour leur épanouissement et aussi pour que ces enfants-là soient bénéfiques à la communauté et à tout le monde. L'autre concerne les femmes. Comment appuyer les femmes de la localité pour qu'elles puissent être émancipées et développer la localité et pourquoi pas les pays un jour? Impliquer les femmes dans les prises de décisions, car après plusieurs analyses, ce sont les hommes qui prennent les décisions à la place des femmes, alors qu'elles doivent être associées, parce qu'elles contribuent au développement de la communauté. C'est une partie entière de la société.
La Commission nationale des droits humains, CNDH, en collaboration avec le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité des CAF, organise depuis ce matin un atelier multi-acteurs sur la promotion des droits humains. Selon le coordonnateur de DECAF, les défis liés aux droits humains sont énormes dans le Sahel en général et au Niger en particulier. Lui, pasteur Moussengera, est au micro de Nafissa Adam Sirfo.
Les questions de droits humains ne sont plus à cacher, il y a des difficultés. Les citoyens, les populations ont des difficultés liées au conflit qui existe, le terrorisme et les autres problèmes qui sont là. Et nous avons pensé que les différents acteurs, vraiment tous les acteurs, sans parler seulement des FDS, mais parler de tous les acteurs de la société civile, les médias, les responsables du contrôle externe comme les représentants de l'Assemblée, les représentants des médiateurs, tous puissent discuter sur cette question. Nous avons créé un cadre de dialogue qui permettent à chacun de discuter sur les défis de l'heure pour juste qu'on puisse résoudre ces problèmes ensemble. Les attentes de cette rencontre, c'est déjà que chacun voit devant lui quelles sont ses obligations en matière du respect des droits humains et qu'il y ait une synergie d'action en cas de violation de ces droits humains pour essayer de les prévenir et je pense qu'on va discuter aussi de les réprimer.
La campagne agricole 2021 au Niger a été dans certains endroits déficitaire. La production fourragère a aussi été impactée. Ce manque de pâturage a fait grimper le prix des aliments bétail. C'est le cas dans le département de Dokoro, selon Altini Kinasa, président de l'association AREN, au micro de Adamu Umar.
Les éleveurs chaque jour se plaignent et me disent « Président, il faut aller chercher du son au service de l'élevage. Nous avons appris que partout l'aliment bétail est disponible. Mais nous, jusqu'à présent, on n'a rien vu. Les éleveurs achètent le sac à 12 voire 13 000 francs CFA. Face à cette problématique, il ne faut pas attendre jusqu'à ce que la saison de pluie arrive pour amener l'aliment bétail pour vendre. Il ne va servir à rien car déjà les animaux sont affaiblis. C'est maintenant que nous avons besoin de ces aliments bétail pour que les animaux soient servis. Comme ça, la tombée des premières pluies va trouver l'animal dans de bonnes conditions. Sinon, ce serait une perte. Il n'y a plus de paille dans les alentours. Les animaux ne mangent que les écorces des arbres. Et le vent qui souffle a enseveli les résidus des champs. Quand l'animal cherche à manger ces résidus, il ne consomme que le sable. Et en fin de compte, l'animal est affaibli.
Lancement hier lundi 25 avril à Bankilare dans la région de Tillabéri de l'opération vente des céréales à prix modéré au profit des populations vulnérables. Comment exécuter cette opération avec équité et cohésion sociale dans le département? Le directeur départemental de l'agriculture, Bourayma Moumini, répond au micro de Youssouf Ilewat.
vente à prix modéré.
Le premier avantage de la vente à prix modéré est le prix de la boîte de mesure qui ne fait que 100 francs CFA. Ensuite, à chaque opération de ce genre, nous constatons que les prix des céréales baissent sur les marchés. Le processus de l'opération de vente à prix modéré repose sur d'abord un comité de vente regroupant les représentants de tous les services concernés tels que l'OPVN et la gendarmerie pour que la vente se passe normalement. Et à l'intérieur de la commune, nous avons aussi créé 6 centres de vente, dont le principal est à Bankilari. Ces centres sont à Lamdi, Chatman, Amersing et Petelkoli, entre autres. Et chaque centre a son propre comité de vente. Par exemple, c'est à Bankilari, le centre principal, que se retrouvent beaucoup de villages. Et on sert uniquement une zone par jour. Chaque personne a le droit d'acheter des céréales pour 2000 à 5000 francs CFA.
Du sport dans ce journal, le terrain de football Maracana de l'échangeur des martyrs à Niamey est fermé depuis plusieurs semaines sur décision de la ville de Niamey. La fermeture de ce centre par les autorités municipales sonne comme une punition pour les usagers, s'indigne Kimba Moumouni Issoufou, un des locataires du centre. Il est au micro de Mokhtar Hamadou.
On a fait les démarches au niveau de la mairie centrale. On ne peut avoir accès au terrain sans pour autant payer son ticket d'accès. C'est soit tu payes par heure, la séance d'une heure coûte 10 000 francs, ou bien tu fais un abonnement. Notamment nous prenons l'abonnement trimestriellement. Quand la mairie gérait le terrain, la séance était à 5 000 francs. Ils ont délégué la gestion à un particulier qui a rehaussé le prix et on n'a pas vu d'inconvénient parce qu'on sait ce que ça nous procure comme plaisir et ce que ça nous procure en termes de santé. Imaginez, on est en mois de Ramadan, les gens consomment assez de sucre et qu'on n'arrive pas à faire de sport. C'est seulement pour évacuer le taux de saccharose qu'on a pu acquérir. Qu'on part jouer et ça aussi c'est à la descente. La nuit, en ce moment qu'on a le temps et qu'on nous ferme, qu'on nous prive de ça, c'est vraiment une punition pour nous.
Bienvenue à tous dans la partie magazine de cette édition. Cela fait plus de 10 ans que Maimouna Isaka, femme en situation de handicap, tient des centres d'alphabétisation à Ndunga, commune de Kolo, région de Tillabéri, après avoir reçu des formations sur l'alphabétisation. De 2009 à ce jour, l'animatrice Maimouna a tenu 8 centres d'alphabétisation, dont 7 à Ndunga Taray et un à Ndunga Kwara. Selon elle, c'est pour ne pas aller tendre la main dans la rue qu'elle a opté pour ce travail. Elle raconte son parcours au micro de Rachia Arimi.
Vraiment, sur le plan de l'enseignement, je ne rencontre aucun problème, car j'ai fréquenté un peu l'école et j'ai reçu une très belle formation. C'est ce qui m'a permis de venir enseigner mes élèves sans difficulté. J'enseigne depuis 2009. Avec mon handicap, je ne peux pas faire des travaux nécessitant beaucoup d'efforts physiques. Or, dans l'enseignement, je peux m'en sortir avec le peu que je gagne, au lieu de tendre la main. Si quelqu'un te donne aujourd'hui, demain, la troisième fois, elle ne le fera pas. Au début, ce sont les femmes elles-mêmes qui me payent pour leur donner des cours, avant d'être rémunérées par les ONG.
Nous savons que pour dispenser un cours, il faut de la mobilité. Comment arrivez-vous à accomplir cette tâche?
Je donne les cours debout en m'appuyant sur ma canne pour écrire, montrer quelque chose ou expliquer aux apprenants. Seulement avec le temps, l'utilisation de la canne me fatigue beaucoup. Aussi, je lance un cri de cœur à mes supérieurs pour avoir une moto tricycle ou des béquilles pour rester debout devant le tableau.
Vous dispensez combien d'heures de cours par jour?
Nous enseignons 3 heures par jour, de midi à 15 heures, et 6 mois par an.
Est-ce que vous êtes victime de discrimination par rapport à vos collègues non handicapés?
Je ne constate aucune discrimination dans mon travail. D'ailleurs, si je devrais monter sur des étages pour être payé, ce sont les financiers eux-mêmes qui descendent avec leurs documents pour me désintéresser, comme ils savent que je ne peux pas monter.
Exercez-vous d'autres activités à part l'enseignement?
Si nous terminons la session de formation, je fais le commerce de feuilles de moringa préparées ou séchées.
Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des personnes handicapées?
Je lance un appel à mes frères et sœurs handicapés à ne pas se focaliser sur la mendicité. Personne n'est obligé de mendier pour survivre. Il faut chercher le savoir, apprendre quelque chose d'utile pour toi et la communauté. Toutefois, cela peut améliorer ta vie. Bien que je sois handicapée, mon mari n'a aucun handicap. Et Mais Dieu merci, nous avions eu 3 enfants, dont la première déjà mariée. Donc si je me suis contentée de mendier au bord de la route, j'aurais hypothéqué mon avenir.
C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et au revoir.